Maintenant qu'il a lu La Princesse de Clèves et tout Émile Zola, ça serait bien qu'il nous fasse une fiche de lecture sur Le Capital de Jeanne Masse. Salut à tous, c'était Sylvie à Montpellier.
Bonjour à tous, c'est pour annoncer le repère montpelliérain qui aura lieu ce soir, donc vendredi 29 mai, comme d'habitude à 20h au bar Le Dôme, qui est à l'angle de l'avenue Gambetta et du boulevard Clémenceau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à ce soir. Ciao.
Bonjour à tous, cher AMG. Vous le savez, RFI rentre dans sa troisième semaine de grève. Il est donc temps de vous faire entrer en scène, vos auditeurs, amis, famille. Alors rencontrons-nous autour d'un pique-nique géant. Amenez nappes et casse-croûte ce samedi 30 à 13h sur l'île aux Cygnes, face à la maison de la radio. Tous en rouge et blanc pour que RFI continue. C'était Fabien d'RFI.
Bonjour, merci Daniel, merci Antoine pour ces merveilleuses heures passées en Bolivie. Ça fait des années depuis qu'il est apparu sur la scène du monde que je suis Evo Morales passionnément. Après le Chiapas, peut-être l'espoir en Bolivie et au Venezuela, décidément, le soleil se lève à l'ouest. Daniel, je voulais te dire, bonne nouvelle, la libération de Julien Coupa. Oui, bien sûr qu'on est content qu'il soit en liberté. Mais assigné à résidence, interdiction de voir ses amis, c'est quand même pas tellement réjouissant. Donc je voudrais qu'on continue à se mobiliser. Et à côté de ça, je voudrais donner deux vraiment bonnes nouvelles. Benjamin Netanyahou, qui avait été invité par Sarkozy la semaine prochaine, ne viendra pas. Et la deuxième, c'est une info encore à vérifier, mais passionnante, le cas échéant, absolument époustouflante, renversante. Une plante qui s'appelle l'amarante, que les jardiniers connaissent, s'appelle aussi la queue de renard, une espèce de plante rouge avec un épi tout touffu, est en train de faire crever les OGM aux États-Unis. Voilà, cette plante est en train de mettre à mal les entreprises de semenciers. Donc, affaire à suivre, la nature se venge. Salut à tous. C'était Anne du Morbihan. Bon courage, Julien.
Chavez au Venezuela, Correa en Ecuador, Ortega au Nicaragua, Morales en Bolivia, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, plus récemment El Salvador, et sans la fraude électorale, on pourrait ajouter le Mexique, le Pérou et la Colombie. Tous ont connu des dictatures soutenues par les États-Unis et la CIA. Tous ont des gouvernements progressistes. 5 siècles après la catastrophe Christophe Colomb, l'Amérique du Sud prend son destin en main. Nationalisation, programmes sociaux, banque internationale. Et puis une chaîne de télévision qui s'appelle Telesur, dont le slogan est « Nuestro Norte es el Sur ». Notre nord, c'est le sud. Et l'image qu'on voit, c'est une carte inversée d'Amérique du Sud. Ciao, viva, portez-vous bien.
Alors, c'est pour ça qu'on est parti en Bolivie avec Antoine, pour voir si ce que dit Eric, ce que disent tous ceux qui s'intéressent un peu au monde et qui pensent que bon, peut-être qu'on pourrait le changer, pourquoi pas. Je pense qu'effectivement, il faut regarder de ce côté-là, il faut regarder à l'ouest. Voilà, mais c'est pas si simple, c'est pas facile. Dire un autre monde est possible, c'est bien, mais après, comment on fait quand on le fait concrètement, comme on dit toujours dans les débats. Eh oui, mais concrètement. Eh ben, concrètement, ils sont en train de le faire en Bolivie. Le gouvernement bolivien élu en décembre 2005 se bat, se heurte à des tas de difficultés. N'est pas le seul pays au monde. Il y en a d'autres avec lesquels il faut échanger, etc. C'est compliqué et c'est évidemment passionnant. Mais aujourd'hui, c'est presque une parenthèse qu'on va faire avec Antoine et avec vous tous. On va s'arrêter sur un haut lieu. Alors là, on peut vraiment parler d'un haut lieu, c'est Potosi. Potosi, ça vous dit quelque chose? Si. Tous, on a dit, c'est le Pérou. Ou bien, ah, c'est pas le Pérou. Eh bien, ça vient de là. Ça vient de cette mine, de cette mine en altitude qu'est Potosi, parce que durant 5 siècles, c'est de là qu'on a extrait, qu'on continue d'ailleurs à extraire l'argent de la monnaie, l'argent qui a fait la richesse de l'Occident et le lieu de naissance du capitalisme, eh bien c'est Potosi. À l'époque, c'était le Pérou. On savait pas très bien ce que c'était d'ailleurs, puisque c'était le moment où les conquistadors espagnols étendaient leur empire sur cette partie de ce qu'ils ont appelé l'Amérique, les Amériques. Et là, ils allaient installer ces mines. Non seulement les mines, mais aussi la transformation des minerais, jusqu'à la monnaie. On ira faire un tour au palais de la Moneda à Potosi, où l'on fabriquait la monnaie. C'est-à-dire que la délocalisation allait faire bosser des gens dans les pays pauvres. Nos ancêtres européens et espagnols y avaient déjà songé et l'ont fait pendant plusieurs siècles. Ils ont aussi un tout petit peu exploité les indigènes, les Indiens locaux. Et selon un chercheur, écrivain, politistes comme Eduardo Galeano, 8 millions serait le nombre de victimes de cette mine de Potosi. 6 millions selon d'autres. En tout cas, on ne va pas dire génocide, mais ethnocide, sociocide, comment dit-on. C'est un paysage terrible qui nous attend en altitude, à plus de 4000 mètres. Et l'activité continue aujourd'hui, mais on ne peut pas ne pas songer à tous ceux qui sont morts dans ces mines, dans les veines ouvertes de cette mine de Potosi. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je viens d'apprendre que l'Italienne était triste pour son Napoléon. Lorsqu'on le critique, il paraît qu'à 90%, on a tort de le critiquer. Il y a quand même une petite marge de 10% quand même, hein, où il exagère. Il paraît qu'il est très au fait des préoccupations des Français, surtout au niveau sécurité, on dirait là aujourd'hui. Mais je crois que c'est pas notre préoccupation première, ça. Quand on voit l'emploi se casser la gueule, quand on voit la merde dans laquelle sont les gens, le petit, là, il ferait bien d'enlever son fond de teint, d'enlever ses talonnettes, et puis de tenir ses promesses électorales. Moi, j'ai pas voté pour lui. Mais enfin, il y a 54% de cons qui ont voté pour lui. Alors, il faudrait peut-être comment qu'ils réagissent, là. Allez, salut, Daniel, et puis bravo à tous ceux qui ont amené ce con-là au pouvoir. Salut.
Marie-Paul de Villejuif. Un renseignement généreux vu sur Arte hier soir. Les producteurs de lait se regroupent en Espagne et commencent à installer des distributeurs de lait frais à 1,05€ le litre. Vous venez avec votre bouteille et la remplissez. Le coût pour le producteur, c'est la pasteurisation et le transport. Peut-être une idée à exploiter. C'est aussi un moyen de sortir de la grande distribution. Au revoir.
Bonjour, c'est Michel de la Somme. Ben, une constatation, sous la gauche, l'insécurité profite à la droite. Et sous la droite, l'insécurité profite à la droite. Voilà, bonne journée.
Il me semble que les propos de M. Mermé et de ses acolytes ressemble à des propos de sec dont il faudrait bien nous débarrasser, au plus tôt.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Bonjour aux irréductibles, aux intermittents et aux nouveaux du repère de l'Alleux chez Jean-Yves et Madeleine. Prochain rendez-vous ce soir, vendredi 29 mai à 19h, au menu élection européenne avec une question, le référendum du 29 mai 2005 est-il oublié? Eh oui. Également la préparation de la fête de la musique, nous fêterons le samedi 20 juin et au Regain à l'Alleux. N'oubliez pas votre casse-croûte, l'auberge est toujours espagnole. A tout à l'heure.
Bonsoir, ce week-end, samedi 30 et dimanche 31 mai, à Grasse, dans le 06, a lieu le 3e forum des quartiers populaires. Il a lieu ici en mémoire d'Hakim Adjimi, qui est mort l'année dernière à 22 ans par asphyxie, suite à une interpellation policière plus que musclée. Et le responsable de ce meurtre policier est toujours en activité au commissariat de Grasse. Pour Hakim et en soutien à ses proches, contre les violences policières et certaines méthodes d'arrestation condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme, et surtout pour que justice soit enfin rendue, rendez-vous samedi matin à 10h30, place du Course. Le forum sera combatif, mais aussi festif. Une manifestation, des projections de films, un repas collectif et des concerts. Donc voilà, soyons nombreux. Et pour l'équipe de là-bas, si j'y suis, si vous ne pouvez pas nous rejoindre ce week-end, on espère que vous viendrez mener un reportage par la suite. Allez, ciao à tous.
Ah, il fait de plus en plus chaud là. Ça devient irrespirable. Une vieille touche par terre. Et là, il faut se mettre à quasiment à genoux pour passer. Il y a une odeur là dégueulasse. Un vieux jus par terre. Pouah. Oh, putain.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Antoine Chao. Bolivie, une révolution en dents de scie. Flight number 2, arriving from New York. Voilà, là on est à Potosi. Et on va monter tout là-haut.
Au Cerro Rico, c'est le nom.
Voilà. Cerro Rico, c'est-à-dire la montagne rouge, orange, ocre, grise de la mine. C'est là-dedans que tout s'est passé et continue de se passer. Mais avant de monter, là, il y a un monument étonnant. C'est le monument aux morts, j'allais dire aux morts, alors disons aux mineurs. Et ça représente un mineur héroïque avec son marteau-piqueur dans une main et de l'autre, il brandit un fusil. Et puis au pied de ce mineur, il y a une figure de femme accroupie en bronze, en métal, comme ça, et qui visiblement est vénérée parce qu'on voit qu'il y a des parties du corps qui sont régulièrement frottées, notamment ses seins dorés.
Voilà, nous sommes dans la place El Minero, la place des mineurs. Oui. En 1952, il y avait une révolution pour nationaliser les mines. Jusqu'à 1952, les propriétaires des mines en Bolivie, c'était des entreprises privées. Et il y avait des entreprises étrangères et boliviennes aussi. Qu'est-ce qu'il a passé? Les mineurs, ils ont fait avec les paysans la révolution pour nationaliser les mines et pour devenir le propriétaire aussi de la campagne. Aujourd'hui, on peut voir le statut du mineur avec son fusil, son marteau-piqueur. Oui, le marteau-piqueur représente le travail qu'ils font à l'intérieur de la mine, les fusils, la révolution qu'ils ont fait à l'époque. Oui. Pour nous, c'est très important cette place des mineurs parce que ici, on commence toujours les manifestations sociales. Les étudiants, le peuple en général commence la manifestation sociale ici, dans la place du mineur.
Voilà, c'est quand même étonnant, c'est que le mineur, là, idéalisé, héroïsé, qui se découpe sur le ciel bleu avec le torse jaune, torse nu, il est sur un tas de cailloux, et sur ce tas de cailloux, effectivement, il y a cette femme, il y a aussi l'entrée de la mine. Et l'entrée de la mine, c'est un petit trou noir, comme un trou à rat, dans lequel tous ces mineurs vont être obligés de s'engouffrer, justement, dans ces entrailles du diable, pour aller extraire ce minerai.
Parce que nous sommes fiers d'être d'une famille minière, oui. Par exemple, moi aussi, mon père était mineur, et je suis fier de descendre d'une famille minière, d'un homme qui a travaillé dans la mine.
Aussi, si vous croisez un homme qui a plus de 50 ans, c'est probablement pas un mineur. Les hommes meurent tôt et depuis longtemps autour de Potosi. À côté de Potosi, sur ce Cerro Rico, cette montagne qui, depuis le début du XVIe siècle, est creusée dans tous les sens de milliers de galeries pour extraire l'argent. L'argent, pas seulement, l'étain, le zinc, différents minerais, mais essentiellement l'argent depuis le XVIe siècle. Et l'argent extrait de cette mine a été à la base du développement de notre Europe et de l'ensemble de notre système. Un chroniqueur indien au XVIe siècle disait « C'est grâce à cette mine que se maintient la Castille, que Rome est Rome, que le pape est le pape et que le roi est le monarque du monde. » Et un certain Marx Karl, dans le premier tome du Capital, dit « la découverte des gisements d'or et d'argent en Amérique, la croisade d'extermination, d'esclavagisme et d'ensevelissement dans les mines de la population aborigène, le commencement de la conquête et le pillage des Indes orientales, la transformation du continent africain en terrain de chasse d'esclaves noirs, sont autant de faits qui annoncent l'ère de production capitaliste. Ces processus idylliques représentent autant de facteurs fondamentaux dans le mouvement de l'accumulation originaire. Pour beaucoup, c'est là que le capitalisme est né, sur cette montagne à plus de 4000 mètres. Et c'est pas facile de s'adapter tout de suite à la seconde quand on arrive à ces altitudes. On est pris du mal de l'altitude, c'est le cas de tout le monde. Et contre ça, on va le voir, eh bien, il y a la coca. Il faut mâcher des feuilles de coca, ce que nous allons faire pendant toute cette heure. Ne soyez pas trop étonnés si on a une prononciation un peu pâteuse. C'est à cause de la chique de coca que nous nous sommes fait dans les joues, parce que c'est le moyen de lutter contre ce mal de l'altitude qui se dissipe au bout de quelques jours. Donc voilà, un haut lieu de l'histoire de l'humanité qui continue aujourd'hui. On va rentrer dans cette mine, elle est toujours exploitée. Évidemment, ce n'est pas les mêmes proportions qu'autrefois. Autrefois, on dit qu'au total, entre la mise en route, l'ouverture de cette mine en 1545 et puis le ralentissement de l'activité au moment de l'indépendance de la Bolivie, c'est-à-dire au début du 19e siècle, on estime à 30 000 le nombre de tonnes d'argent extrait de cette mine. Et la légende la plus courante, le cliché le plus courant, mais qui est un cliché très lumineux, dit que la quantité d'argent extraite des mines de Potosí pourrait construire un pont de Potosí à Séville, mais qu'on pourrait construire un autre pont en parallèle avec les ossements des centaines de milliers de mineurs morts à la tâche, essentiellement et presque exclusivement des Indiens, des indigènes de cette région, ainsi que des esclaves amenés, déportés d'Afrique, qui sont venus aussi mourir dans les veines de ces mines, mais pas très longtemps, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à s'acclimater. Et vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur de cette mine. La plupart ne sont pas étayés. On y respire de la poussière, des gaz de toutes sortes. Mais on y travaille tout de même, toujours, aujourd'hui. On gratte et on espère. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Bolivie, une révolution en dents de scie.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cae en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general. Todos los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar. Han seguido con el gran mercado, todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica.
El
capitalismo una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica.
Ahora ya.
Là, oh. c'est le marché, hein.
Oui. À droite, par exemple, vous pouvez voir les magasins de coca, d'accord?
Ah oui, dans les gros sacs, là, c'est la coca.
La coca. On peut voir aussi l'alcool. L'alcool, c'est pour les mardis et les vendredis, normalement.
Mardi et vendredi, c'est le jour de l'alcool.
Oui, pour faire le rituel à l'intérieur de la mine. Oui.
Mais c'est quel genre d'alcool? C'est du rhum, c'est quoi?
Ah non, ça, c'est l'alcool potable. 96 degrés.
96 degrés, ah bah c'est bien.
Oh,
ça,
bien.
Ça fait, c'est pas comme si c'était 100 degrés. Et ça se boit pas, ça.
On le boit.
Ah oui.
Au début, il faut le boire
au point d'habitude. Ah oui, bien sûr.
Pur. Débanne les statues du diable pour les montrer que nous voulons pur d'argent.
Ah, c'est dans le rituel, il faut boire l'alcool pur à 96 degrés,
ouais,
pour montrer au diable qu'on veut de l'argent pur.
On veut l'argent pur.
Ah.
Et on continue en faisant la compagnie au diable. Il aime ça. Il aime d'être avec nous. Ah, regardez là-bas. Il achète. Ça, c'est la quantité qu'il utilise pendant une journée. Quantité de coca. Ça, c'est, ça va coûter à peu près 5 bolivianos. 31 grammes de coca.
31 grammes par jour.
Oui. On devient comme Astérix. Ça, ouais, c'est la potion magique de Quechua, d'accord? Comme vous avez aussi une potion magique là-bas.
Coca et papier,
c'est ça qu'il nous faut, quoi. Un petit peu de coca, de feuilles de coca.
Avant
pour grimper. Hein.
Ça, c'est des cendres. En fait, il faut un catalyseur pour faire sortir le jus et sortir les actifs de la coca. Donc, on peut les faire avec des pommes de terre, de la quinoa. Et ça, c'est des cendres de banane. Donc, c'est un peu sucré. Mais la dame te propose aussi du bicarbonate.
Alors, faut mâcher vraiment, hein. Faut pas prendre trois feuilles. Faut avoir une grosse boule.
Bah oui. Ouais.
Comme les hamsters.
D'accord. Alors, nous voilà à Potosi en train de mâcher trois feuilles de coca en compagnie de Wilbert, qui va être notre guide, qui est un gars de Potosi, qui connaît parfaitement le terrain, la question. Son père était mineur, il le fut aussi dans sa jeunesse, et puis avec Pascal Absy, que vous venez d'entendre la voix, qui est une Française, une chercheuse, qui connaît parfaitement, mais alors parfaitement bien, intimement, aussi bien la mine que les mineurs, que cette ville de Potosi, donc cette ville qui fut une splendeur extraordinaire au XVIIe, c'était la ville la plus peuplée du monde, avec 200 000 habitants. Elle venait devant les grandes capitales européennes, devant Londres, et on y vivait fastueusement. On multipliait les églises, il y avait une trentaine d'églises, il y avait des tripots, on y faisait de la musique, on y faisait des tas de choses extraordinaires jusqu'au déclin au 19e siècle. Mais ça a été une très très, très grande ville, tout ça basé, ne l'oublions surtout jamais, sur l'exploitation féroce des Indiens à travers la Mita. On en parlera, la Mita. Ça se présentait comme des règles de travail, mais en fait, ça masquait une exploitation féroce des habitants, qui d'ailleurs ont fui pour échapper à cette forme de travail obligatoire. Galeano, l'auteur uruguayen, mais bien connu à travers son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », Eduardo Galeano, décrit, s'est beaucoup intéressé à Potosi, bien évidemment, tant cette ville est importante pour le monde entier et pour l'Amérique latine. Et il dit, par les ouvertures des 5000 galeries que les Espagnols pratiquèrent dans la colline, la richesse a jailli au long des siècles, la colline a changé de couleur à mesure que les cartouches de dynamite l'ont vidée et ont abaissé la hauteur de son sommet. Les roches accumulées autour de nombreux trous sont de toutes les couleurs, rose, lilas, pourpre, ocre, grise, dorée, brune.
Cette montagne rose, ocre rose, là, c'est ça.
Oui.
Tout s'est passé là, ça fait 5 siècles qu'on exploite cette montagne rose. Et gris, rouge, c'est d'abord des couleurs qui frappent. Et en bas, à droite, là, c'est la ville de Potosi qui s'étend là sur les collines. Aujourd'hui, c'est combien de mines, t'as une idée ?
On ne sait pas, parce que finalement, tout le monde peut ouvrir sa mine. Il faut savoir qu'à Potosi, il y a au moins 4 ou 5 métaux exploitables. Il y a l'argent, le zinc, il y a le plomb, il y a l'étain. Donc selon les cours du minerai, les gens changent de mine pour attraper un minerai différent. Donc ça bouge tout le temps, ça se creuse de plus en plus.
Selon le marché ?
Selon le marché, depuis 500 ans, puisque ça a commencé avec l'argent. On est retourné à l'argent, mais maintenant c'est le zinc, avec l'industrialisation, avec notamment la demande chinoise. On est repassé à l'étain, alors que ça faisait 30 ans qu'on n'exploitait plus l'étain. Et c'est pour ça que les gens pensent que leur montagne, elle est fertile. C'est un être vivant qui reproduit ses minerais. C'est-à-dire que quand on arrête de l'exploiter, l'étain, pendant 20 ans, il revient. Et c'est pour ça que maintenant, on peut à nouveau exploiter l'étain. Parce que la montagne a à nouveau reproduit ses filons.
Pour l'essentiel, Potosi, c'est pendant des siècles l'exploitation de l'argent et de l'étain. Et pendant des siècles, c'est des gens qui vont travailler là dans des conditions de travail forcé, des indigènes, aussi des esclaves africains.
Alors les esclaves africains, ils n'ont pas fait long feu, parce qu'ils ne tenaient pas le coup dans les conditions de vie. On est quand même à 4000 mètres. Les gens n'arrivaient pas à les faire travailler comme
ils l'espéraient.
Comme ils voulaient.
Mais là, c'est quand même ce qu'on voit là. C'est le lieu d'une exploitation féroce, d'une exploitation qui a entraîné la mort de centaines de milliers de travailleurs forcés. C'est quand même ça avant tout, Potosi.
C'est ça, et c'est le développement du capitalisme européen.
Oui, ben c'est lié.
C'est le moteur de l'accumulation nécessaire à la naissance du capitalisme.
Alors, a priori, cette montagne, elle s'appelle El Cerro Rico, rebaptisée par les Espagnols, mais elle était sûrement déjà exploitée par les Incas avant. Mais c'est les Espagnols, donc notamment les frères Pizarro, qui se sont jetés dessus comme des cochons affamés, après avoir égorgé Atahualpa, le leader des Incas sur Cusco.
Ils arrivent les premiers, mais ils n'ont pas le droit d'exploiter, puisqu'en fait, le Cerro appartient à la couronne. Mmh. Donc c'est d'autres Espagnols qui vont recevoir la montagne de la main des Incas et qui vont commencer à l'exploiter en 1545. Le métal est un bien de prestige à l'époque préhispanique. C'est l'arrivée de la monnaie qui fait l'exploitation intensive, qui fait une demande croissante de métal. Les gens ici, ils n'étaient pas très gourmands en métal. C'était un bien de prestige qui circulait entre les élites, qu'on enterrait avec eux quand ils mouraient. Mais ils n'avaient pas la même nécessité de métal que l'Europe monétaire.
On pense toujours que tout commence, le mal arrive avec les Espagnols. C'est vrai, mais auparavant, il y a eu d'autres empires et d'autres colonisations qui se sont produites ici.
Oui, et le fait que les gens parlent quechua à Sucre et à Potosi, c'est une langue de conquistador.
Mais est-ce que les Incas venaient là avec le même projet que les Espagnols, c'est-à-dire l'exploitation des mines, pour les minerais qu'on pouvait y trouver, l'argent, etc.
Ben, je suppose, oui, parce que les Incas étaient des grands métallurgistes. Ils savaient très bien reconnaître une montagne minéralisée. Aujourd'hui encore, les gens, par exemple les mineurs, ils regardent un paysage et ils peuvent voir dans le paysage quelles sont les montagnes qui peuvent être susceptibles de receler de l'argent. Bien sûr que les Incas avaient cette connaissance. Ils voyaient ce genre de cordillère qu'on a autour de nous et ils se rendaient bien compte que c'était des montagnes minéralisées.
Alors ils se sont fait doubler par les Espagnols.
Ils se sont fait doubler ou ils ont utilisé Potosi pour trouver une place dans le nouvel empire colonial. Ils ont donné Potosi. C'est les dernières hypothèses des historiens, que ce soit les Incas qui ont donné Potosi aux Espagnols pour négocier de conserver un certain pouvoir au sein de l'empire colonial.
Pour avoir leur place dans l'empire colonial qui avançait, ils ont négocié, ils ont donné cette ville et cette mine.
Ils ont surtout donné cette mine, puisqu'il n'y avait pas encore la ville. La ville est née avec le début de l'exploitation coloniale. Elle est née comme un campement minier. On imagine très bien la ruée vers l'argent de Potosi, des cabanes qui se montent et des gens complètement frénétiques parce que la teneur en argent de Potosi est incroyable. Il faut savoir que c'est le plus grand gisement d'argent du monde.
Plus grand gisement d'argent du monde, plus grande exportation vers l'Europe, vers l'Espagne, d'argent de l'histoire. On a une idée du nombre de victimes. J'ai lu des chiffres de 8 millions, 10 millions.
Moi, je pense que c'est exagéré. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on sait, par exemple, dans certaines communautés du Nord Potosi, donc le Nord Potosi, c'est juste derrière nous, c'est un lieu qui envoyait des travailleurs forcés dans la montagne de Potosi. Les gens célèbrent aujourd'hui encore le jour où les Indiens étaient regroupés par les Espagnols pour se mettre en marche pour Potosi, et ils le célèbrent comme une cérémonie funèbre. C'est comme un adieu aux morts pour tous ces gens qui vont aller travailler à Potosi.
Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta y manta, minero gira causa tuní. Mana y mai pisca puanchu, suque tu leita sapescai. Minero manta yuya kunki, minero gira causa tusa, mi huarcachari causa pari, huacaricus paricus canu.
Mario, Marino. Dal nord de Potosi.
Moi, on m'appelle Mario Marino, je suis du nord de Potosi.
Si. Mucho gusto de conocer.
Je suis ravi de vous rencontrer. Bienvenue à Potosi.
Si.
Qu'est-ce que vous faites là au juste?
Je suis en train de mâcher de la coca.
Là, je suis en train de mâcher de la coca.
Alors, tous les jours, vous faites ça. On s'arrête ici et on commence à mâcher la coca. On commence à faire la chic de coca.
Así que cada día sube aquí y empieza a masticar la coca.
Sí, en la mañana, todo desde el principio de la semana, ¿no? Desde lunes a...
Oui, tous les matins, on fait ça, de toute la semaine, du lundi au vendredi.
Et pourquoi? À quoi ça sert?
Bueno, esto es para el trabajo.
Ça, c'est pour pouvoir travailler.
Sí, para el trabajo.
Qu'est-ce que ça produit comme effet? Pourquoi c'est si bon?
Ah, bueno, esto principalmente es para que realmente proteja el polvo que dentro de la mine existe.
C'est pour nous protéger aussi de toute la poussière qu'il y a dans la mine.
Sin esto, usted sabe muy bien, no se puede. Tanto también es un poquito es para la energía.
C'est aussi pour l'énergie, pour être plus fort.
También un poco para el hambre.
Et pour la faim aussi.
Sin esto, puede haber hambre.
On pourrait avoir faim au fond de la mine.
Sí, porque adentro no se puede comer.
Parce que dedans, on ne peut pas manger.
Sí, porque adentro mucho existe polvo, existe toda clase de... Y hace mal.
Parce qu'au fond, il y a de la poussière, etc. Donc, il ne faut pas manger, ça fait du mal.
On n'a pas fait des petits coins dans la mine où on pourrait se protéger pour manger un petit peu?
No, porque mucho, existe mucho arsénico.
Non, parce qu'il y a beaucoup d'arsenic en bas. Donc
Mais dis donc, mais c'est quoi cet arsenic? C'est de l'arsenic qui sort de la mine, c'est naturel? Ou bien c'est un produit qu'on apporte de l'extérieur?
De la mine, en la mine existe eso.
Dentro de la mine existe.
Dentro de la mine existe eso. Y es como, cuando se produce, primera vez es como, casi como agua.
C'est comme de l'eau au fond de la mine.
Luego empieza a secar.
Donc après ça sèche.
Seca y luego se empobrece, ¿no? Como...
Donc ça, après ça devient de la poussière, c'est de la poussière d'arsenic.
Y eso lo protege.
Et donc casi comme... avec la coca, ça nous protège de ça.
Voilà, à quoi sert la coca selon Mario Marino, ce mineur Ils sont nombreux encore aujourd'hui, environ 4000, on nous l'a dit, à venir s'engouffrer par les trous creusés, les galeries creusées dans cette montagne, ocre, rose, gris, selon les moments de la journée et de la lumière, un haut lieu évidemment, un haut lieu historique, mais aussi un lieu de légende, tous les mythes et les légendes qui entourent cette montagne, c'était une production extraordinaire. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, on vous raconte des histoires stupéfiantes, et puis il y a des histoires épouvantables, donc voilà, c'est toujours cette question et cette interrogation sur le nombre de mineurs morts dans cette mine, la plupart ensevelis sur place. Donc il arrive, lorsqu'on creuse, c'est-à-dire la technique pour creuser, c'est mettre un bâton de dynamite dans un trou, et puis on fait exploser, et puis on attend que la poussière retombe, et puis on vient, et puis on extrait les morceaux qu'on a explosés, puis on espère que là-dedans on va trouver de l'argent, ou de l'étain, ou du zinc, ou différents minerais, mais il arrive en faisant exploser que voilà, on trouve des restes, des squelettes, des ossements de mineurs morts quelques siècles auparavant. Et tout se passe, par exemple, dans l'imagination des mineurs et des gens du coin, comme si la montagne fabriquait, continuait de fabriquer, pour peu qu'on la laisse reposer un peu, à nouveau de l'argent et des métaux précieux. Et puis on va voir comment cette montagne est habitée par un personnage très très important qu'on rencontre à chaque orée, à chaque entrée des galeries ou un petit peu plus loin dans la mine, qui est le diable en personne. Au point que certains mineurs, vendent leur âme au diable. Il y a un commerce, un marché, qui, afin d'obtenir évidemment les meilleurs gisements, avoir de la veine, c'est ça avoir de la veine. Tomber sur un bon filon, c'est ça tomber sur un bon filon. On a là non seulement l'origine de notre histoire économique et politique, mais on a aussi probablement là l'origine de notre langage. C'est pas le Pérou non plus pour les enfants. Il y a des enfants qui travaillent dans ces mines. Certaines ONG en font leur chou gras et leur argument compassionnel en vue de réunir, de lever des fonds. Mais il y a une réalité sur le travail de ces enfants.
Depuis combien de temps tu fais ce boulot ?
Yo estoy trabajando desde el año 1983.
Moi j'ai commencé en 83.
Yo estoy trabajando tanto unos 25 años, 26.
J'ai 25 ans, 26 ans maintenant.
26 ans dans la mine.
Sí, yo empecé a mis 18 años.
J'ai commencé, j'avais 18 ans.
On nous dit qu'il y a des enfants qui travaillent dans la mine, c'est vrai ça?
Sí, algunos empiezan por causa económico.
Oui, il y en a qui commencent pour des problèmes d'argent.
Su padre ya falleció.
Si les parents sont morts, si le père est mort.
Si no hay quien realmente mantenga la familia.
S'il n'y a personne pour nourrir la famille.
Edad, algunos empiezan
alors des fois, les enfants commencent à 12 ou à 13 ans.
Usted sabe muy bien que aquí todo es minería.
Vous savez bien qu'ici, il n'y a pas autre chose à faire.
Il n'y a pas d'autre
boulot que ça.
Mais il y a combien d'enfants qui travaillent comme ça?
Hay mucho. Hay mucho.
Il y en a beaucoup.
En Potosí, más que todo, hay mucho.
Surtout à Potosí.
Hay mucho en Potosí, porque legalmente a veces la minería es un poco medio muy sacrificado, ¿no? Porque hay mucho niño que queda huérfano.
Ici, effectivement, la mine, ça sacrifie beaucoup les gens. Mm. Du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins.
Sí, eso es.
Tu as des enfants?
Sí.
Oui, oui, j'en ai.
Mm. Ils travaillent à la mine?
Están estudiando, pero me vienen a ayudar. En vacaciones.
Ils sont en train d'étudier, ils étudient en ce moment, mais ils viennent ici pendant les vacances et ils m'aident.
Ouais, et ça les renvoie aux études. Ça les motive pour leurs études.
Sí, lógicamente, porque lógicamente, porque.
Bien sûr, exactement, c'est ça.
Cuando subes a la vida orillando la oración, te va guardando la sombra, la virgen del socavón. Minerito Potosí, de estaño es tu corazón. Hasta el fondo de la tierra con el alba ya te va. Con el barre no te quedas golpeando la oscuridad. Mientras yo quedo pensar si a la tarde volverás. Hasta el fondo de la tierra con el alba ya te va. Ay, el minero, gajos de metal, la tierra lo traga junto con el carnaval, junto con el carnaval. Minerito potosino,
ok, on rentre maintenant.
Parfait.
Hop, on allume les lampes sur notre casque.
On roule ma poule.
Ne touchez pas à droite, d'accord? Le câble électrique, il y a des tuyaux pour les comprimés aussi. Attention la tête.
Ah ouais, mais c'est ça qui est pas bien, c'est la vengeance des petits. Eh oui.
Eh ben oui, c'est la vengeance des petits, là. C'est cette mine dans laquelle nous avançons. Ça fait 1m50, 1m60 peut-être de hauteur. Et voilà, et il faut se plier en deux, en quatre pour avancer. Nous voilà déguisés en mineurs, avec le casque, avec la lampe, et on avance. Alors, ces mines ne sont pas étayées, ne sont pas ventilées. Et voilà, on avance là-dedans avec son équipement, sa pioche, sa dynamite, le détonateur, et puis la pelle, et puis on espère tomber sur un bon filon. Alors il y a des mineurs très malins qui savent à l'œil où c'est, etc. Il y a des chanceux, des moins chanceux, des malchanceux. On avance dans cette galerie, et de temps à autre, à droite ou à gauche, on voit des galeries qui partent de celles où nous sommes, mais alors celles-là, elles sont grosses, il faut ramper pour s'engager dedans, il y a juste la place pour ramper, et elles peuvent comme ça faire des dizaines, voire des centaines de mètres jusqu'au lieu de l'exploitation et du fameux filon. Donc on avance au gré des balancements de nos lampes, Et des odeurs, et des odeurs parfois violentes, d'acide, d'enfermement, de gaz et de poussière.
Hey, ça va ?
Ouais. Très bien. Très bien.
T'as vu ces couleurs, là ? Le vert. C'est vraiment un vert véronèse. Hein.
Ça, c'est le soufre de cuivre.
Il y a un ocre à côté.
Un soufre. La couleur du soufre, l'inverse, c'est le sulfate du cuivre.
Alors oui, Libert, elle a combien d'années cette galerie, là, cette première galerie, cette bouche?
4 siècles. Ancien, parce qu'on peut voir la bouche de la mine, l'arche.
Une arche,
oui,
en pierre?
En pierre, oui. Les Espagnols ont utilisé ce système roman pour fortifier la mine. Aujourd'hui, les mines sont fortifiées avec les bois d'eucalyptus. La plupart des mines ont des noms de vierges ou de saintes. Mm-hmm. Ça veut dire Candelaria, c'est une vierge. Okay? À côté, il y a une autre mine appelée Rosario. Mm-hmm. Et puis, il y a des mines appelées Santa Elena, Santa Rita, San José, San Germán. Ça, c'est clair que les Espagnols ont ouvert ces mines et ils ont mis les noms catholiques parce que c'était leur mission des Espagnols de transformer les Indiens en catholiques,
ouais,
en chrétiens catholiques. Imaginez, nous sommes seulement
à la rentrée de la mine. Imaginez, plus au fond.
Repos.
Oui.
Là, ça sent fort, c'est le soufre.
On peut sentir déjà le soufre ici.
Et l'arsenic.
Et l'arsenic aussi.
Oui.
Waouh.
Il est fort ici.
Et devoir travailler ici 8 heures, 7 heures chaque jour. Vous voyez, c'est pour ça qu'après 5 ans, 6 ans, tout le monde a la silicose.
5, 6 ans.
Dans la mine. Moi aussi, mais paix.
Alors, votre père, il travaillait dans cette mine?
Mon père, oui, il a travaillé dans cette mine. C'est pour ça que j'ai le droit de venir ici.
Il fait de plus en plus chaud, là. La respiration est de plus en plus difficile.
Oui.
Ça devient irrespirable. Une vieille touche par terre. Là. Et là, il faut se mettre à... quasiment à genoux pour passer. Il y a une odeur là dégueulasse, un vieux jus par terre. Ouah. Irrespirable ici. Oula, c'est dur là, hein.
Vous savez, c'est beau, tranquille, lentement.
Ouais.
On va,
buenas.
On s'habituera.
On va s'habituer. Il fait chaud là.
Ouf. On est arrivé. Et regardez, c'est l'endroit pour se reposer.
Ah ouais.
Ici, nous sommes dans un endroit de repos.
Ça tombe bien. Ça tombe bien. Tant mieux, tant mieux.
Imaginez l'endroit où il travaille.
Oh putain.
Allez, dernier 50 mètres là. Ah, c'est irrespirable. Ok, ça c'est pour le tio, pour la pachamama. Ah, et puis.
Alors tu verses un peu d'aguardiente de.
Oui, sur le tio, pachamama.
Alors là on est. On explique qu'on est arrivé à deux mineurs qui sont là ici en train de mâcher la coca, en train de cloper. Et il y a une sculpture qui est là, en travers du chemin, qui représente un personnage assis, alors avec des cornes, donc diabolique, une moustache, une barbe. Et il est assis et dans ses mains posées sur son ventre, autour de son ventre, on aperçoit des flacons, on aperçoit des feuilles de coca. Et lui, c'est le diable.
Oui, au début, je vais vous présenter.
D'abord nos amis, d'abord le diable.
Fausto. Et lui?
Alberto.
Compagnons de travail. Compagnons, ils sont des copains, pas des frères. Normalement, ils travaillent entre frères. Normalement, cousins aussi. D'abord, il faut donner au diable un petit peu de cadeau, oui. D'abord, une cigarette pour le diable. J'ai un.
Cigarette du diable.
Cigarette pour le diable. Quand il tape, ça me paraît moins quoi. On parle quechua ici. On préfère parler le quechua entre nous parce que c'est notre langue maternelle.
Ahí no pone que hay peja, ¿eh?
No. ¿Por qué tengo una chispa?
Ah, tu allumes la cigarette du diable.
Oui. Maintenant, pour les boissons, pour le diable. On va. Voilà. De l'alcool, oui. Tio Jorge. Son nom, c'est Tio Jorge. L'oncle George.
Tant que c'est pas l'oncle Sam.
Ah non, c'est pas l'oncle Sam. Eh? Il chic la feuille de coca, regardez.
Mm-hmm.
Ah oui.
Non, tu lui donnes de la feuille bien fraîche.
En faisant ça, on montre notre respect à lui. Oui. Il est content maintenant. Oui. Parce qu'il est seul pendant la semaine. Mais quand on arrive le vendredi, avec les frais, feuilles de coca, l'alcool, les cigarettes, il est content. Il va nous protéger. Il va nous donner plus de minerais. C'est ça la raison pour laquelle on vient ici. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir.
Ah, hein? C'est le don et le contre-don.
Toujours.
C'est ça.
Ça, c'est le principe de la culture andine. De la culture andine, oui. Ici, pour nous, pour tout le monde, il est le diable, oui, mais on l'appelle Tio. Beaucoup de gens vont penser qu'on adore le diable, mais ce n'est pas ça. L'image du diable vient avec les Espagnols. Les Espagnols sont arrivés sur les Andes avec la croix de Jésus-Christ et avec le diable aussi. Parce qu'avant, il n'y avait pas un diable. Il y avait des autres divinités, le soleil, la lune, la mère terre ou la Pachamama. Et aussi, sous terre, il y avait un esprit appelé Supai. Supai habitait sous terre. Supai était bon et mauvais, comme la Pachamama, comme le soleil, comme la lune, comme la nature en général. Mais pour les Espagnols, non. Supai est le diable, le pire personnage de la Bible.
Dis-moi, mais alors, j'ai l'impression qu'il a un très gros sexe.
Ah oui.
Ta divinité, là. J'ai l'impression même, seulement, je vois bien qu'il a un très gros sexe, une grosse paire de colonnes.
Le sexe veut dire production, force, machisme, pouvoir. Le sexe, c'est pouvoir. Sans sexe, c'est pas possible de faire une autre vie.
Mais alors, pourquoi il est cassé, là? Explique-moi.
C'est un accident, hein.
Ah, c'est un accident du travail.
Il avait un petit accident ici.
Ah.
C'est pour ça que quelqu'un a cassé ça.
Donc,
par accident.
Le sexe du diable est en travaux.
Attends, un chaguito. Et maintenant, on va boire.
Oula.
En montrant notre respect à lui.
Oui, mais alors, c'est un drôle d'alcool, hein.
Et alors, oula. C'est le fameux Ceibo Buen Gusto à bon goût, mais de 96 degrés.
Tout ça, mais non, pas 96 degrés.
Il faut. Il faut faire la chalia.
Tu jettes à la terre d'abord.
Ah,
à la chalia, des fois.
Ça, c'est de l'alcool à 96 degrés. Je le jette par terre, quoi, comme ça, hein.
Oui, oui.
Donc, on donne un peu à la Pachamama.
Oui, des fois, toujours. On a deux
fois.
Yeux.
Une fois,
deux.
Oui.
Voilà. Oui, il faut boire.
Boire comme ça jusqu'à lundi 15h. C'était un reportage avec Antoine Chao, montage Agnès Lebot et Agnès et Antoine Chao. À lire les ministres du diable travaillent et ses représentations dans les mines de Potosi en Bolivie de Pascal Le Hapsi aux éditions de l'Armatan. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Gilles Gaillard, Coyenne Guyenne et Raphaël Moutert ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.